RFI, grand reportage.
Thomas Arms.
Grand reportage aux États-Unis, la capitale de l'automobile, Détroit, surnommée Motor City, a été la ville la plus durement frappée par la crise de 2008. Une ville qui s'est déclarée en faillite en 2013, après avoir accumulé plus de 18 milliards de dollars de dettes et qui comptait alors près de 30% de chômeurs. Désormais, Détroit est en train de renaître de ses cendres, mais avec un nouveau modèle économique et social. Détroit, un modèle pour l'Amérique, c'est le grand reportage du jour, signé Romain de Maresquin.
Il est 7h du matin à Détroit et déjà des ouvriers sont au travail pour donner à la ville une image plus conforme à son passé de bassin industriel majeur des États-Unis et de capitale mondiale de l'automobile. Détroit Motor City, la ville du moteur comme elle a toujours été surnommée, veut retrouver sa splendeur. En 2008, elle a été frappée de plein fouet par la crise économique et en 2013, lorsque la ville s'est déclarée en faillite et qu'elle cumulait plus de 18 milliards de dollars de dettes, près de 30% de la population était au chômage. Depuis, Détroit se redresse, lentement mais sûrement, même si 40% de sa population vit toujours sur le seuil de pauvreté. Et parmi les acteurs qui participent à ce nouvel essor, Shinola, fabricant depuis 2011 de montres de luxe, de maroquinerie, de vélos et désormais de platine vinyle. Barack Obama porte une montre Shinola, Bill Clinton les collectionne. L'entreprise fait office de porte-drapeau du renouveau de la ville dans laquelle elle a choisi de s'implanter selon sa directrice marketing, Bridget Scott.
Nous avons choisi Détroit parce que cette ville a une tradition de production, mais aussi pour sa population. Lorsque nous sommes venus ici, nous sommes tombés amoureux des habitants de cette ville, donc il était logique pour nous de nous y installer. Plus nous ouvrons de magasins, plus nous créons d'emplois dans la distribution et aussi dans la fabrication de nos produits. Et puis, en se diversifiant, par exemple, on vient de se lancer dans les bijoux, cela permet d'ajouter encore des emplois. Et en grandissant en tant qu'entreprise, dans notre premier métier de fabricant de montres et de maroquinerie, cela va aussi engendrer de l'emploi.
Shinola affiche cette ambition sur les murs de Détroit, comme le prouve une immense affiche publicitaire en plein centre du cœur financier de la ville. On peut y lire en immense caractère « Il y a une chose marrante qui se passe lorsque vous construisez des usines dans ce pays, ça s'appelle des emplois ». Shinola veut s'inscrire dans le projet de reconstruction de Détroit en tant que partenaire.
Nous discutons avec la ville pour voir de quelle manière nous pouvons aider au perfectionnement de la main-d'œuvre, notamment dans la formation, ce qui fait vraiment défaut ici en ce moment.
Shinola finance des programmes dans des écoles de design, offre des horloges pour les lieux publics, participe à la réhabilitation de bâtiments, bref, tente de s'investir au maximum dans la reconstruction de cette ancienne cité industrielle. Et selon l'entreprise, l'avenir de Détroit s'annonce plutôt bien.
Nous sommes optimistes quant au futur de Détroit et nous avons la chance de pouvoir y prendre part. Il y a tant de gens ici qui font des choses fantastiques. Certains viennent s'installer ici parce qu'ils voient qu'il y a la possibilité d'être créatif. On peut devenir entrepreneur, lancer de nouvelles affaires. Détroit est un endroit qui offre ce type d'opportunités. Et si nous parvenons à réussir ici, et nous croyons fermement que nous y parviendrons, cela prouvera à d'autres villes qu'elles peuvent connaître la même histoire, le même destin que Détroit.
L'arrivée de ce type d'entreprise fait émerger une nouvelle population, une classe moyenne haute, des jeunes principalement, qui ont lancé depuis quelques années un mouvement baptisé « Do it ourselves », comprenez « faisons-le nous-mêmes ». Il s'agit de se réapproprier des moyens de production laissés à l'abandon ou encore de se réimplanter dans des quartiers dont l'habitat est en train de s'effondrer. John et Melissa en sont le parfait exemple. Ils ont tout juste la trentaine, sont diplômés, originaires de Détroit, et ils sont désormais propriétaires de deux maisons qu'ils louent sur des sites internet dans l'un des plus vieux quartiers de la ville, Corktown. Le quartier irlandais fondé au milieu du 19e siècle.
À cause de la mauvaise situation économique dans laquelle Détroit s'est retrouvé, beaucoup de gens qui vivaient dans ces anciennes maisons, qui demandent beaucoup d'entretien, n'avaient pas les moyens, les ressources financières pour investir et les maintenir en état. Mais avec la reprise de l'activité dans la ville et l'intérêt que portent de nombreuses personnes à Détroit, Airbnb, par exemple, est une opportunité intéressante pour les propriétaires qui veulent gagner de l'argent et l'investir ensuite dans ces maisons.
La population de ce quartier, à l'image de nombreux autres qui jouxtent le centre-ville, est donc en train de changer. De nombreux millennials, ces étudiants qui ont terminé leurs études au début des années 2000, s'installent ici. Ce qu'ils recherchent, c'est un cadre de vie à leur image. Ce sont des quartiers où la ville investit, contrairement aux banlieues défavorisées, des banlieues que ces jeunes comme John souhaitent voir évoluer.
Il faut les laisser redevenir en quelque sorte sauvages. Dans certains de ces quartiers, il y a désormais des fermes urbaines. Par exemple, lorsqu'il ne reste plus qu'une seule maison dans une zone, cette maison peut devenir une ferme et le terrain d'en face, abandonné, devient le terrain à cultiver. Ce ne sera pas une ferme géante, mais des gens qui savent faire ça et qui font preuve d'enthousiasme peuvent ainsi gérer une ferme de 1 ou 2 acres.
Pour ce couple marié depuis 3 ans, sans enfants et désormais avec des revenus bien supérieurs à la moyenne, c'est cette direction que doit prendre la reconstruction de Détroit. Il faut que la ville soit en quelque sorte un laboratoire pour une génération qui souhaite monter ses propres projets.
Toutes ces personnes qui font partie de ce mouvement du « do it ourselves » imaginent des projets partout. Ils voient une opportunité et ils se disent « si je ne prends pas en main ce projet, peut-être que personne ne le fera. Mais si j'investis du temps et de l'énergie, je peux construire quelque chose d'incroyable que je n'aurais jamais pu acheter ou faire ailleurs. » Du coup, il y a, c'est vrai, une grande communauté de jeunes à Détroit avec ce type d'énergie et d'enthousiasme. Ce sont des gens qui ont des connaissances et quel que soit leur ressources, ils sont en train de créer une communauté en redonnant vie, par exemple, à des infrastructures qui datent d'il y a 100 ans et qui auraient peut-être été détruites.
Direction, une ferme installée dans Détroit, comme l'évoquait John. Foodfield, créée en 2011 par 2 associés, est une petite exploitation installée dans Boston Edison, un quartier situé au nord de la ville, proche d'anciennes usines démantelées. Noah Link et Alex Bryan, tous 2 diplômés de l'Université du Michigan, ont développé ce projet avec 3 buts bien précis, environnemental, social et économique. Une initiative qui s'inscrit dans ce mouvement du « do it ourselves », tient à préciser Noah Link.
Pour ce qui est de l'environnement, nous tentons de réhabiliter le terrain et d'améliorer la terre et aussi faire un meilleur usage de l'énergie. Nous avons par exemple des panneaux solaires qui produisent toute l'énergie nécessaire. Économiquement, nous cherchons à faire en sorte que l'argent reste dans l'économie locale et nous aidons d'autres affaires, d'autres business. Nous voulons aider Détroit à remonter la pente plutôt que d'aller chercher des aliments produits en Californie. Et pour ce qui est du social, nous voulons mettre en relation les voisins, faire en sorte que plus de gens soient impliqués, montrer aux enfants comment produire des aliments sains pour ceux qui en ont besoin, avoir des aliments disponibles ici même plutôt que de conduire des kilomètres pour aller dans des épiceries.
Noah nous fait faire une petite visite de l'exploitation.
On a environ 60 poules ici. Là, c'est une nouvelle parcelle que nous exploitons depuis l'été dernier. Ici, il y avait plein de tomates. À côté, il y a des champignons. Et ça, c'est le système d'irrigation. Il devrait être en marche d'ailleurs.
Avec l'aide de l'État du Michigan et un prêt de $10 000, Noah et son associé ont pu racheter une parcelle située à 2 pas d'anciennes usines, mais dans un secteur autrefois résidentiel, un terrain qui a une histoire, celle d'un autre déclin de Détroit.
Cette propriété était auparavant une école élémentaire. Vous avez dû entendre dire à quel point les écoles, l'éducation à Détroit ont décliné ces dernières années. Ça a tellement baissé qu'ils ont commencé à fermer des écoles un peu partout dans la ville. Ici, il y avait l'une des premières écoles qui a été détruite. Elle a été rasée avant que l'on ne s'installe il y a 6 ans. Mais c'est un site parfait pour faire de l'agriculture. Encore plus grand que ce à quoi on s'attendait à trouver à Détroit. 1,5 hectare où il n'y a aucune contamination environnementale, alors que beaucoup de terrains dans cette ville sont très contaminés, ce qui est bien entendu un gros problème pour des agriculteurs urbains. Donc on a procédé à des tests, et même s'il y a plein de choses à améliorer pour restaurer la matière organique du sol, faire du drainage et d'autres obstacles à franchir, on savait qu'on n'aurait pas à gérer une éventuelle pollution.
Noah veut croire en son projet, mais il finit tout de même par avouer qu'il n'est pas aussi convaincu de la capacité de sa ville à se redresser.
Détroit est une ville qui change très vite, qui a grandi très vite, trop vite, et s'est effondrée aussi très rapidement. Maintenant, ça change encore. Une partie de moi est optimiste quant à l'avenir, parce que je connais de bonnes personnes ici, et je vois se développer de bonnes choses. Mais une partie de moi est très pessimiste, parce que malgré l'excitation qui nous entoure, les nouveaux investissements réalisés à Détroit, et les gens qui viennent s'installer ici, nous avons toujours de gros problèmes. Le système scolaire s'effondre. Nous n'avons pas de système fiscal qui permettrait de développer les services dont ont besoin certaines personnes. Et nous n'avons aucun leadership au niveau de l'État. Nous n'avons toujours pas la volonté pour faire en sorte que les banlieues travaillent avec la ville. Et je ne vois pas comment cela peut changer à court terme.
Détroit se redresse, attire de nouveaux investisseurs, laisse place à la créativité, l'innovation. Mais cette nouvelle approche a un coût. Cette renaissance laisse de côté la population la plus pauvre, déplore Thomas Lampkin, prêtre et responsable d'une soupe populaire dans un quartier du sud-est de la ville.
Il y a des signes de progrès, mais aussi de décadence. Et je ne sais absolument pas comment tout cela va se terminer. Détroit est en train de devenir l'endroit à la mode, l'endroit où aller. On assiste à une arrivée massive de jeunes dans le centre-ville et les quartiers proches. Mais, mon Dieu, il y a des zones entières où rien ne se passe. C'est un véritable problème pour quelqu'un comme moi. Comment travailler pour relancer une ville avec des jeunes éduqués et diplômés sans pour autant délaisser les pauvres qui ont toujours vécu ici? Où vont-ils aller?
La renaissance de Détroit serait-elle factice? La ville est-elle toujours aux abois ou bien est-elle en train de renaître de ses cendres? Jeff DeBrown, bénévole dans un centre d'aide pour les plus démunis dans un quartier déshérité de Détroit, mais proche du centre financier, estime que c'est une question de point de vue.
Tout dépend comment on définit l'amélioration. Nous, nous sommes moins sollicités, par exemple, mais c'est parce qu'on est proche du centre-ville. Avant, il y avait ici des refuges, des abris, mais beaucoup de ces structures ont déménagé, sont parties. Du coup, il y a moins de 100 domiciles fixes, de gens à faible revenu dans cette zone. Donc, si vous regardez la situation de cette manière, oui, ça a l'air d'aller mieux. C'est une question compliquée. Parle-t-on des gens ou de la ville ? La ville s'est déclarée en faillite, mais on est toujours dans une gestion d'urgence. Le système n'a pas été totalement rétabli et ne fonctionne pas comme une véritable démocratie. Il y a un gros travail qui a été fait sur le plan du développement économique, mais cela a un coût.
Les milliers de laissés pour compte doivent désormais trancher entre tenter d'aller s'installer dans un quartier proche du centre-ville, là où désormais se concentre l'activité, ou quitter tout simplement la ville. Détroit ne compte plus que 700 000 habitants sur les 2 millions de personnes que la ville a connues à son apogée. Farid, 53 ans, sans domicile fixe depuis 9 mois et chômeur depuis 8, envisage de partir. Sans formation, sans diplôme, il n'a pas d'avenir ici.
Moi, je compte partir d'ici, dans un endroit plus chaud où il y a une population plus nombreuse et du travail, et plus de chances de bénéficier de programmes d'aide. Une autre ville, comme par exemple Atlanta, qui semble être un bon endroit.
Farid est un exemple concret de la spirale infernale qui frappe une partie des habitants de Détroit. Cet ancien ouvrier avait un appartement et un travail, mais le propriétaire de son immeuble, comme beaucoup d'autres, ne payait pas ses impôts. La ville a donc saisi son bien et expulsé les locataires. Sans adresse, Farid a ensuite perdu son travail, mais pour autant, il ne blâme pas son ancien propriétaire.
Détroit s'est mise toute seule dans cette situation. Les gens ici ne payent pas leurs impôts. Vous savez, Détroit est la ville qui a les impôts les plus élevés du pays.
Farid, comme de nombreux sans-abri, fait le tour des soupes populaires pour se nourrir et se réchauffer. Les gens dans le besoin sont certes moins nombreux qu'il y a quelques années, comme le confirme le père Thomas Lampkin, mais cela ne signifie pas pour autant, selon lui, qu'ils ont réussi à s'en sortir, à remonter la pente, juste qu'une bonne partie d'entre eux a tout simplement quitté la ville.
La population continue de décliner doucement, même si le déclin était plus important il y a quelques années. Mais cela continue, il y a de moins en moins de gens dans les quartiers défavorisés, et ceux qui y sont toujours sont encore plus pauvres qu'avant. C'est un véritable problème pour la ville. Comment donner accès à des services de base lorsque les rentrées fiscales baissent? Les gens, du coup, sont en quelque sorte mis à l'écart du système. C'est l'un des grands sujets sur lesquels les autorités doivent travailler. Je ne sais vraiment pas comment ils régleront le problème. D'ailleurs, selon moi, il n'y a pas de solution.
des solutions, Community Development Advocates of Detroit tente d'en trouver et de faire passer le message. Cette organisation de juristes et d'avocats qui travaillent pour les différentes communautés de Détroit essaie de faire accepter les idées de ses habitants aux autorités de la ville. Elle est située à Midtown, en plein centre universitaire. À sa tête, Sarida Scott, afro-américaine, comme 80% de la population de Détroit. Elle tente de faire comprendre aux autorités que pour remettre sur pied la ville, il est primordial de prendre en compte les souhaits de ces communautés, sans quoi l'histoire pourrait bien se répéter.
Nous travaillons avec des quartiers qui tentent de s'installer et d'être reconnus et qui ont conscience de ce dont ils souhaitent bénéficier à l'avenir. Et l'espoir, c'est qu'ils soient à nouveau en mesure d'attirer des ressources, des financements. Par exemple, un des quartiers avec lesquels nous travaillons, qui s'appelle Brightmoor, a mis en place une fondation avec un plan qu'ils ont élaboré eux-mêmes, qui leur permet de trouver des financements pour ensuite mettre en œuvre ce dont ils ont besoin. Donc, notre travail consiste en partie à leur fournir une aide technique en termes de plan de développement pour leur communauté, mais c'est également un travail qui permet de préconiser telle politique, un travail d'avocat, de conseiller, qui nous permet de faire pression sur la ville et de faire comprendre aux autorités que ce type de développement est en train de se dérouler à Détroit. Nous avons besoin de développement équitable et cela doit être le cas pour tous les habitants.
Sarida Scott avoue tout de même que ce travail n'est pas simple et qu'il est pour l'instant très compliqué de faire comprendre ce type de démarche aux autorités de la ville, des autorités qui n'hésitent pas à participer au financement de nouveaux stades, dont le dernier, toujours en chantier, coûte près de 300 millions de dollars, mais qui rechignent par exemple à financer un nouveau système de transport public. Désormais, avec une nouvelle équipe municipale en place, Sarida Scott espère que ce travail de l'ombre finira par payer.
J'ai toujours bon espoir. Je ne pourrais pas faire ce travail si on n'était pas positif. Je pense qu'en ce moment, il y a un grand intérêt pour cette ville et beaucoup d'excitation. Nous sommes en train de connaître un moment particulier. Le fait que je parle avec vous prouve que nous vivons un moment important. Pas seulement au niveau national, au niveau international aussi. Mais ma plus grande préoccupation, c'est que nous soyons très clairs en tant que ville sur notre valeur et ce que nous souhaitons comme développement. Nous voulons être sûrs que tout le monde soit pris en compte, que ce soit inclusif, équitable. Et donc, j'ai bon espoir. Je pense que c'est une grande opportunité parce que nous sortons d'une banqueroute. Nous avons de nouveaux dirigeants. Nous connaissons ce moment d'exception. On nous porte beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'investissements réalisés et un développement important et nous devons capitaliser là-dessus et faire en sorte que cela soit fait d'une manière qui soit bénéfique pour tous les habitants de Détroit.
Motor City se relève doucement d'une situation inédite pour les États-Unis. Alors certes, avec 18% de chômage, Détroit est encore loin d'avoir redressé la barre, mais en 3 ans, la situation a nettement évolué. Il faut dire que l'administration Obama a déployé de grands efforts et beaucoup de moyens pour inverser la tendance. Détroit est en train de devenir une source d'espoir pour d'autres villes qui connaissent ou connaîtront ce genre de déclin, un sentiment que partage Sarida Scott, malgré toutes les difficultés auxquelles elle doit faire face au quotidien.
Je pense que nous sommes en train de devenir un modèle et que nous allons devenir en quelque sorte une source d'enseignement. Je ne pense pas qu'il y ait une autre ville dans le pays et qui a perdu autant d'habitants que Détroit, qui a dû gérer un tel fléau, notamment en termes d'habitat laissé à l'abandon. Et je pense sincèrement que nous sommes en mesure de donner des leçons sur la manière de gérer une telle situation. Parce que nous avons eu d'énormes défis à relever, couplés avec la pauvreté et les problèmes d'éducation. C'est pourquoi je dis que Détroit est en train de vivre un moment exceptionnel. Tous les regards sont tournés vers Détroit. Déjà il y a 30 ans, dans les années 80, tous les regards étaient tournés vers nous pour voir comment on allait s'écrouler, s'effondrer. Maintenant que nous sommes en train d'essayer de nous redresser, vivre une résurgence, tous les regards sont tournés vers nous pour voir comment ça se passe. Les gens se disent, est-ce qu'ils peuvent remonter la pente? Mais pour nous qui sommes ici, il y a désormais cet engagement. Et là, je parle en mon nom, étant donné le travail que je réalise. crise. Comment faire pour que tout cela se passe mieux pour tous ceux qui vivent ici ?
Détroit remonte la pente, bitume, éclairage public, nettoyage des rues, des travaux sont réalisés un peu partout dans Motor City et le départ de Barack Obama qui a beaucoup aidé Détroit ne devrait pas freiner sa croissance, c'est en tout cas ce qu'espèrent ses habitants. Détroit, un modèle pour l'Amérique, un grand reportage de Romain Lemaresquier, réalisation Eva Moszynski. Autour de la question.